VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
17h à Bamako, 19h à Kigali. Bienvenue à notre journal. On commence par la crise migratoire. Environ 500 migrants venus d'Afrique subsaharienne ont pénétré aujourd'hui dans l'enclave espagnole de Ceuta au Maroc en franchissant une clôture de 6 mètres de haut. Cette entrée massive intervient au moment où Rabat menace de ne plus contrôler les flux migratoires si un différend agricole avec l'Union européenne n'est pas réglé. Jacques Aristide.
Les images passent en boucle sur les chaînes internationales. Des dizaines de migrants dans les rues de Ceuta criant liberté. Les 498 migrants se trouvent désormais dans un centre de rétention, d'après la préfecture de la ville. Pour sa part, le Maroc affirme que 110 migrants ont été interpellés et fait état de 20 blessés. À Ceuta, 2 migrants ont été hospitalisés. L'Espagne est régulièrement critiquée pour envoyer immédiatement au Maroc les migrants, une procédure qui les prive de la possibilité de déposer une demande d'asile. Mais Rabat récemment averti vouloir relâcher la surveillance de ses frontières en raison de son litige avec Bruxelles sur l'interprétation d'un contrat de libre-échange sur les produits agricoles et de la pêche, un désaccord sur fond des produits venus du Sahara occidental, dont l'indépendance est réclamée par le Front Polisario. Mécontent du blocage, le gouvernement marocain a prévenu que l'Europe s'exposait à un véritable risque de reprise des flux migratoires que le Maroc a pu contenir, dit-il.
Au Nigeria, des attentats suicides de Boko Haram ont ciblé un camp de déplacés dans le nord-est du pays. 7 kamikazes se sont fait exploser hier, tard dans la soirée, à Maiduguri, le chef-lieu de la province de Borno. Le point avec Dili Diko.
Parmi les 7 kamikazes figuraient 6 femmes. Les attaques ont eu lieu près du camp de Mouna, accueillant des milliers de déplacés, et selon les responsables des services d'urgence, elles n'ont pas fait de victimes. Les assaillantes ont tenté d'agir peu après 23h30, heure locale, alors que le couvre-feu dans la capitale de l'État du Borno, fief du groupe djihadiste Boko Haram, débute à 22h. Selon Mohamed Kanar de l'Agence nationale de gestion des urgences, le 7e kamikaze qui avait déposé les 6 femmes en voiture a tenté de foncer vers un barrage militaire, mais il a été tué avant d'atteindre sa cible. Ces tentatives d'attentat sont survenues après le départ d'une délégation de diplomates venue à Maiduguri en amont d'une conférence prévue à Oslo le 24 février pour lever des fonds en faveur des déplacés du conflit du nord-est du Nigeria.
Au Mali, les présidents des autorités intérimaires des régions du nord du pays sont désormais connus. Et ce, grâce à l'élaboration d'une proposition de liste consensuelle en concertation avec le gouvernement malien. Cette liste doit être validée par les autorités maliennes avant l'installation officielle des présidents dans les différentes régions. Les détails avec notre correspondant à Bamako, Kassim Traoré.
On peut dire que les recommandations de la deuxième réunion de haut niveau du comité de suivi pour l'accord et la réconciliation au Mali se concrétisent. La recommandation principale est en cours d'exécution. Il s'agit de la mise en place des autorités intérimaires, car l'ex-rebelle et non moins déserteur de l'armée malienne, Hassane Ag Fagaga de la SEMA, a été désigné président des autorités intérimaires dans la région de Kidal. À Gao, c'est Djibrila Maïga de la plateforme qui a été choisi comme président, alors qu'à Tombouctou, c'est le jeune Boubacar Ould Amadi de la SEMA qui prendra les rênes. Dans la région de Menaka, les autorités intérimaires seront présidées par un autre jeune du MSA. Il s'agit d'Abdul Wahab Ag Ahmed Mohamed. Les autorités intérimaires de Taoudéni, quant à elles, seront dirigées par Aoumoudi Sidi Mohamed. Sa proposition a été faite par la partie gouvernementale. Ainsi, le samedi prochain, le ministre de la décentralisation doit se rendre à Kidal pour installer Hassane Ag Fagaga dans ses fonctions. Puis le dimanche, ça sera le tour de Abdul Wahab Ag Ahmed Mohamed à Menaka, Bamako. Kassim Traoré, VOA Afrique.
Le Burkina Faso sera à nouveau sur les feux de la rampe du 25 février au 4 mars à l'occasion de la 25e édition du FESPACO, le Festival panafricain du cinéma et de la télévision. Plus de 150 films iront à la conquête de l'étalon d'or de Yenenga. Des innovations de taille sont annoncées autour du thème formation et métier du cinéma et de l'audiovisuel. Les détails avec notre correspondant au Burkina, Issa Napon.
De grands changements, il y en a à ce FESPACO, notamment la cérémonie d'ouverture qui quitte son stade mythique du Katout pour le stade municipal Issoufou Joseph Konombo, un peu plus petit. Difficile aussi de ne pas y voir la nécessité de bien verrouiller le dispositif sécuritaire qui est fin prêt, souffle le commissaire Sankara. Il est en charge de la sécurité du FESPACO.
Nous serons sur les lieux de projection de rue marchande, partout où il y aura du monde. Et à ce niveau-là, je pense que nous sommes en mesure de dire que nous sommes confiants, naturellement, nous allons mettre en place un dispositif qui va amener des contraintes.
À noter dans les innovations majeures cette année, un tapis rouge déroulé à l'occasion du Celebrity Day. La responsable à l'organisation, Georgette Paré, elle-même star du cinéma africain.
Il s'agira de rendre hommage à l'ensemble des acteurs. Ça va se passer au cours d'une nuit. On permettra aux acteurs de se rencontrer. Alors, on a Isaac de Bankole qui a été annoncé par la Côte d'Ivoire. Il y a le comédien de Nollywood, John Dumelo. Et il y a également le comédien de Jacob's Cross qui s'appelle Fabian et qui a joué le rôle de Bola Abayomi.
Une innovation majeure du 25e Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou qui va attirer cette année plus de 7000 festivaliers avec comme invité d'honneur la Côte d'Ivoire dont une forte délégation est attendue pour partager sa culture à travers plusieurs aspects dont le village Akwaba en plein centre-ville de la capitale. Issa Napon, Ouagadougou, VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Au Congo-Brazzaville, le colonel Marcel Nsougou, ancien secrétaire général adjoint du Conseil national de sécurité congolais, CNS, condamné à des travaux forcés à perpétuité en 2014, est décédé ce vendredi à la suite d'un malaise à l'hôpital militaire de Brazzaville. M. Nsougou est tombé dans sa cellule vers 11h, heure locale, 10h, temps universel. Il est entré dans un profond coma et il a rendu l'âme, a déclaré à l'AFP, une source pénitentiaire qui a requis l'anonymat. La nouvelle de la mort du colonel Marcel Nsougou, 60 ans, s'est répandue à travers Brazzaville comme une traînée de poudre. Le colonel est très connu dans la capitale. En septembre 2014, il avait été jugé et condamné notamment pour rébellion, assassinat et association de malfaiteurs par la chambre criminelle de la cour d'appel de Brazzaville. Il avait été arrêté le 16 décembre 2013 au terme de violents affrontements entre ses miliciens et l'armée nationale qui avaient fait 22 morts en plein centre de la capitale. Bien avant, le colonel Nsougou était tombé en disgrâce avec sa mise en cause dans l'explosion du dépôt de munitions de Mpila, quartier résidentiel de la capitale, qui avait fait près de 300 morts le 4 mars 2012. Dans cette affaire, le colonel Nsougou avait été détenu pendant un an et demi, puis jugé et condamné à 5 ans de travaux forcés avec sursis. On passe maintenant aux relations entre les États-Unis et l'Europe. Lors d'un forum annuel sur la sécurité à Munich, en Allemagne, la ministre allemande de la Défense a mis en garde ce vendredi les États-Unis contre tout discours pouvant menacer la cohésion de l'Union européenne et surtout contre un rapprochement avec Moscou sur le dos de ses alliés. Le point avec Saloua Djafari.
Ursula von der Leyen n'a pas mâché ses mots. Pratiquement tous ses messages étaient adressés à son invité américain Jim Mattis.
Wir sollten uns dafür hüten, diesen Kampf in eine Front gegen den Islam und Muslime an sich zu verkehren. Denn dann laufen wir Gefahr, dass aus dem wachsenden Graben noch viel mehr Gewalt und Terror erwachsen, die uns bedrohen können. Nein, wir sollten vielmehr immer wieder Partnerschaften suchen mit gleichgesinnten muslimischen und arabischen Staaten.
La ministre de la Défense fait référence à la Russie. Pour elle, Washington ne devrait pas accorder la même confiance au Kremlin. Avant sa prise de fonction, Donald Trump avait placé sur un pied d'égalité la Russie de Vladimir Poutine et l'Allemagne d'Angela Merkel. Présent à Munich, le secrétaire d'État à la Défense, Jim Mattis, s'est voulu rassurant.
The transatlantic bond remains our strongest bulwark against instability and violence. NATO exists to protect our way of life, to include the free exchange of ideas that characterizes this annual conference in one of the world's great cities. Here, I am confident that we will strengthen our partnerships, confronting those who choose to attack innocent people or our democratic processes and our freedoms.
Même tonalité du côté d'une réunion ministérielle du G20, les États-Unis ont semblé tempérer les velléités de rapprochement avec Moscou, alors que le conseiller à la sécurité de Donald Trump vient de démissionner pour avoir menti sur ses contacts avec la Russie.
Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.